Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Et c'est le dernier instant M de l'année.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Émission raccourcie ce matin pour laisser la place au rendez-vous avec le médiateur de Radio France. Il sera question du traitement sur France Inter de la mort de Johnny Hallyday. Certains auditeurs estiment qu'on en a trop fait. Mais avant cela, un anniversaire. L'éléphant fête ses 5 ans. C'est joli, on dirait le titre d'un livre pour enfants. L'éléphant, c'est une revue de culture générale. Elle publie un sondage pour ce numéro anniversaire qui en dit long sur la soif de connaissance des Français. La presse magazine devrait-elle nous cultiver avant de nous informer?
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Gaëlle Le Soleux.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue sur France Inter. On est ravis de fêter cet anniversaire. Vous êtes la rédactrice en chef de la revue L'Éléphant. À la une de ce numéro anniversaire, il y a Voltaire et un éléphant, justement. Ils sont en train de trinquer au champagne. Plus les hommes seront éclairés et plus ils seront libres. On en parle dans un instant. D'abord, voici l'actualité des médias. Et à la fin, c'est TF1 qui gagne. Bilan des audiences télé 2017. Sur le top 100 des programmes les plus regardés cette année, la première chaîne occupe 85 places. Rien de neuf sous le soleil. Les Enfoirés sont sur la première marche du podium. Mais la nouveauté cette année, c'est le capitaine Marlowe qui s'installe dans ce palmarès avec son inimitable Bagou. Corinne Massiero dans la peau d'une enquêtrice hors pair sous la direction de José Dayan. Si l'on regarde les audiences des séries françaises 2017, eh bien France 3, avec le capitaine, passe devant TF1. Chapeau Marlowe. 38 000 signatures contre un téléfilm. La pétition lancée sur Internet pour empêcher France 2 de consacrer une fiction télé au drame du Bataclan continue de progresser. Nous avons besoin de silence, de pudeur, de dignité et de respect, expliquent les proches des victimes de l'attentat. France 2 a décidé d'ajourner ce téléfilm, baptisé ce soir-là, de l'ajourner tant que la production n'aura pas consulté l'ensemble des associations de victimes du Bataclan. Communiqué publié hier soir par la chaîne. Et c'est vendredi, place à l'instant Madeleine, le jeu de l'instant M. Vous avez une voix à reconnaître, alors soyez prêts à bondir parce que c'est facile cette semaine, on le dit. Hein. Le premier qui envoie un mail sur l'instantm@radiofrance.com avec la bonne réponse recevra un coffret du festival d'Aix-en-Provence. Les premières années, Mozart, Gounod ou encore Poulenc sur deux CD que l'on vous offre grâce à Lina. Il faut retrouver le nom du présentateur et le titre de l'émission.
Aujourd'hui, nous faisons un crumble de pruneaux et de pommes avec une fouettée à l'armagnac. Crumble, on peut dire, c'est quand même une origine britannique.
Tout à fait.
Et normalement, le crumble, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu comme une pâte, des petits morceaux de pâte sablés, brisés, qu'on mettait dessus les gâteaux.
Voilà, dessus les gâteaux. Cet inoubliable générique, au passage, c'était le Barbier de Séville. Le titre de l'émission, le nom de l'animateur, par courriel, l'instantm@radiofrance.com. L'instant M, tout attaché, on attend les réponses. Allez, c'est la fin de l'année, l'heure de prendre du recul. Si vous disposiez de plus de temps, que choisiriez-vous de faire en priorité? Question un peu vertigineuse, hein, posée dans un sondage publié par votre revue, Gaëlle Le Soleux, la revue L'Éléphant. Et les résultats de ce sondage, c'est que la majorité des personnes interrogées aimeraient se cultiver, développer leurs connaissances générales. C'est toujours pareil avec les sondages, hein. Ça arrange bien l'organisme qui les a commandés en général. Ça vous arrange bien?
Non, non, on a été... effectivement, on est satisfait du résultat, mais on n'a pas cherché à influencer. Mais je pense qu'effectivement, l'actualité le montre, les gens ont envie de prendre du temps, de prendre du recul, de mieux s'informer, de s'informer différemment et de se cultiver.
Peut-on vraiment croire aux résultats de ce sondage? Si on demande aux gens ce qu'ils regardent à la télé, ils répondent tous Arte, mais les chiffres d'audience disent autre chose.
Oui, évidemment, on a toujours envie de se montrer sur le meilleur jour que l'on puisse avoir. En même temps, on peut considérer que voilà, c'est l'envie qu'ils expriment. Peut-être qu'en réalité, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, l'envie est là, déjà, de le dire.
La deuxième réponse la plus citée, les choses que l'on ferait si on avait plus de temps, eh bien, c'est de s'occuper davantage de nos enfants. 34% de parents indignes dans ce sondage. Donc,
non, c'est-à-dire qu'ils s'occupent déjà pas mal de leurs enfants. Et...
ils voudraient faire encore plus.
Voilà,
c'est le bon côté de la médaille. Les Français sont accros à la culture générale, en tout cas. C'est la conclusion à laquelle vous parvenez dans votre dossier. Mais ça veut dire quoi d'ailleurs, culture générale? Quelle différence avec l'érudition par exemple?
Alors, il y a deux mots déjà général. Pour nous, la culture générale, c'est en quelque sorte un socle sur lequel on peut bâtir un ensemble de connaissances qu'on peut faire lier entre elles. Le savoir, c'est ça, c'est réussir à lier des informations entre elles pour bâtir quelque chose de construit et qui se développe. L'érudition est quelque chose de, à mon sens, de beaucoup plus spécialisé, de beaucoup plus une information en silo, et on tend à approfondir, à creuser. Nous, on est dans une logique différente, c'est-à-dire c'est celle de la transversalité et c'est celle d'un savoir accessible à tous. On n'est pas du tout dans l'érudition, je pense que notre revue n'intéresserait pas d'ailleurs les érudits qui sont de grands spécialistes, d'éminents spécialistes et qui n'intéressent parfois qu'à leur sujet et pas au reste. Nous on pense que ce qui est important c'est de s'intéresser, pas forcément de façon très approfondie, mais à beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on constitue le savoir.
Alors dans ce numéro anniversaire, on trouvera un dossier sur les antibiotiques, quelques pages sur Voltaire et sur le peintre Gustave Klimt, un entretien également avec Francis Eustache, grand spécialiste de la mémoire. Et le titre de ce magazine, d'ailleurs l'éléphant, c'est une référence à la mémoire. On trouve à la fin de chaque article des outils pour mémoriser l'essentiel. Est-ce que ça veut dire que dans les autres titres de presse magazine, Ganaël Le Seuleux, on oublie tout immédiatement après lecture?
Ça faisait un peu partie des projets lors de la création de la revue, c'est qu'on peut lire beaucoup, visiter beaucoup de choses, et en fait, qu'est-ce qui nous en reste au final? Pas grand-chose. Donc nous, quand on a créé la revue, d'emblée, on avait deux piliers, la culture générale, c'est-à-dire la transversalité, la variété, et la mémoire. Comment aider les gens à mémoriser? Donc on a travaillé avec un laboratoire de sciences cognitives pour essayer, nous-mêmes nous n'étions pas compétents dans la matière, donc on a travaillé avec des gens dont c'est le métier, et ça passe notamment par une maquette un peu particulière, par des jeux, par un ensemble de choses que vous évoquez effectivement.
C'est très ludique en effet.
Voilà.
Qui permettent de mémoriser.
Enfin, en tout cas, qui aident. On ne dit pas qu'il y a une recette miracle, mais en tout cas, ça aide à mémoriser.
Et puis, il y a aussi des spécialistes de la mémoire qui livrent leurs trucs et astuces pour retenir la liste des courses.
Exactement.
Un dossier sur Klimt, par exemple, je le disais, le peintre viennois. On pourrait lire un dossier équivalent, je ne sais pas, dans Le Point ou dans M, le magazine du Monde. La différence, peut-être, ce serait l'accroche d'actualité, un prétexte d'actu pour parler de ce peintre. Vous n'avez pas besoin, vous, d'accroche actu dans l'éléphant.
Exactement, on n'a pas besoin d'accroche actu parce que la culture générale, on peut dire, est un puissant fond. Pour parler de philosophie, on n'a pas besoin d'actualité. Pour parler
de
science, on a
sujet.
Eh bien, écoutez, on essaie de varier. Donc, parfois, on peut avoir des éléments liés à l'actualité, à des anniversaires. C'est parfois, effectivement, en histoire, ça peut être ou une exposition, peut être un prétexte pour faire un sujet. Et puis après, il y a ce que l'on considère comme étant des basiques, des fondamentaux à connaître ou en tout cas à proposer à notre lecteur pour éveiller une curiosité. Et donc, c'est la magie de ce que l'on fait, c'est d'avoir le choix de faire une proposition à notre lecteur.
C'est une revue, on précise, qui titre à 50 000 exemplaires. La culture générale trompe-t-elle énormément comme l'éléphant, Ganaël Le Seuleux? Parce que finalement, c'est une manière de faire illusion, de savoir un peu sur tout, mais pas énormément, sur pas grand-chose.
On entend dire que la culture générale,
c'est
comme la confiture.
Voilà.
Oui, on peut voir ça. On peut aussi dire que la culture générale, c'est quelque chose de très clivant socialement. Il y a quand même beaucoup de débats sur la culture générale.
Nous, aux épreuves d'entrée dans les concours, on dit que c'est élitiste, que c'est une manière de recruter l'élite.
Pas du tout dans cette idée-là. On considère qu'au contraire, c'est un outil. C'est un outil qui s'enrichit en permanence, c'est-à-dire que vous écoutez les informations sur France Inter. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments à côté desquels vous passez parce qu'il vous manque tel recul, tel background en termes d'histoire, en termes de culture. Donc, on pense que ça n'est pas du tout élitiste, c'est au contraire accessible pour tous.
Merci beaucoup, Ganaël Le Seuleux. Ce numéro anniversaire de l'éléphant est en kiosque pour 15 euros. C'est un magazine trimestriel. Et le résultat de notre jeu, l'Instant Madeleine, c'était, vous l'aviez reconnu?
Non.
Joël Rebuchon dans l'émission Bon Appétit, bien sûr. Bravo à Jonathan qui gagne donc ce coffret CD. Les premières années du Festival d'Aix-en-Provence en partenariat avec l'INA. Il me reste à remercier très vite la formidable équipe de l'Instant M, Sonia Leglen, Marion Philippe, Redouane Tella, Raphaël Rousseau, Julien Chabassu. Et Sonia De Villers sera de retour lundi pour parler de romans photos. Tout de suite, le médiateur de Radio France.
France Inter, la séquence du médiateur, Bruno Denas.
Merci Dorothée et bonjour à tous pour le rendez-vous mensuel du médiateur. Trop de Johnny, trop de ministres, trop de pudeur à l'égard d'affaires internes. Bon nombre de questions interpellent la rédaction. Nous évoquerons également la fin des grandes ondes, c'était il y a un an. Et depuis, les services techniques de Radio France ont répondu à beaucoup d'entre vous. Jean-Marc Four, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes le directeur de la rédaction de France Inter. Nous avons reçu beaucoup de messages d'auditeurs à propos du traitement de la mort de Johnny Hallyday. Le principal reproche, c'est « vous en avez fait trop ». Comme le dit René, une matinale entière consacrée à la mort d'un chanteur, alors que le même jour, Trump va transférer sa diplomatie à Jérusalem avec tous les risques de conflit que cela va entraîner, n'est-ce pas un peu léger ? Et Nicolas ajoute, je comprends cette notoriété, mais le traitement de son décès n'était-il pas démesuré par rapport au reste de l'actualité ?
Jean-Marc. Alors, je comprends les remarques de René et de Nicolas. C'est exact de dire que le jour de la mort de Johnny, nous avons consacré une très grande partie de l'antenne de France Inter toute la journée à sa disparition. C'est tout à fait juste, on ne veut pas le contester. En même temps, deux bémols malgré tout. Le premier, qui est de l'ordre de l'évidence journalistique, c'est que Johnny n'est pas que Johnny.
C'est un monument, on dit.
C'est-à-dire que c'est plus que ça. Et c'est ça, je pense, qui a intéressé une chaîne comme France Inter, c'est que c'est un fait de société. Ça dépasse de beaucoup un seul profil artistique, Johnny. Johnny, c'est quelque chose dans la société française.
Donc, longtemps.
Oui, et donc ce qui a fait qu'une chaîne comme France Inter a accordé beaucoup de place à cet événement, c'est parce que la société française, enfin une grande partie de la société française, a été touchée par cette disparition. Donc c'est ça qui finalement nous a intéressés. C'est la première observation. Et puis la deuxième, par rapport à ce que disait René au sujet du fait que ça s'est produit le même jour que Trump et Jérusalem. Ce n'est pas tout à fait exact. Je m'explique. Johnny disparaît dans la nuit et c'est le soir suivant de cette journée-là que Trump va annoncer sa décision de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem, reconnaissant ainsi implicitement Jérusalem comme capitale d'Israël. Si René et tous les auditeurs, vous avez été attentifs à ce qu'a fait France Inter, précisément nous avons tourné la page, ce que n'ont pas fait bon nombre d'autres médias. C'est-à-dire que on a beaucoup traité de Johnny, je ne le conteste pas, jusqu'à 19h. Et à 19h, Trump prend sa décision. Et dès 20h, l'ouverture des flashs, puis des journaux du soir même, devient Trump sur Jérusalem. Et le lendemain matin, on consacre notre matinale, avec les invités de Nicolas Demorand, au dossier Trump et Jérusalem. Donc c'est vrai, on a accordé beaucoup de place à Johnny, mais on a aussi tourné la page assez vite pour se consacrer à ce qui est un événement historique pour toute la planète. Effectivement, c'est la décision de Donald Trump.
Bah, c'était bien de le préciser. Et en revanche, il y a aussi de nombreux auditeurs qui regrettent que France Inter, comme la plupart des médias, ait fait preuve de complaisance à l'égard d'un « évadé fiscal », entre guillemets, qui, comme nous l'écrit Eliane, ne veut pas payer ses impôts en France, mais se fait soigner par des médecins français. Et Jackie reproche une géographie complaisante et sans prise de distance.
Alors encore une fois, je crois que c'est parce qu'on s'est intéressé au phénomène de société plus qu'à l'homme. Je pense que ça joue beaucoup. Et le deuxième paramètre, la remarque est assez vraie, mais je crois qu'elle est assez générale en France quand il y a une disparition.
Oui, oui.
C'est-à-dire que les médias français, globalement, au-delà de France Inter, ont tendance à négliger la critique et à ne retenir que les faits positifs dans
et
le parcours de cette personne.
Sorte.
Oui, c'est ça. C'est une tendance assez générale, je pense, dans la presse française en réalité. Ce qui n'est pas nécessairement une excuse, c'est plus un constat, une explication.
Alors, autre question posée par des auditeurs, la forte présence, et là on change de sujet, constate-t-il de ministres et d'élus La République En Marche parmi les invités de France Inter. Alors ce qui est vrai, Jean-Marc Four, c'est que la majorité doit bénéficier d'un temps de parole plus important que l'opposition.
Alors oui, ils sont présents, mais la réalité, je vais vous faire une confession, c'est qu'ils ne le sont pas assez. C'est-à-dire que c'est les règles établies par de l'audiovisuel. La majorité, ce qui est quand même logique en démocratie, doit bénéficier d'un temps de parole supérieur à celui de l'opposition. Et j'ai refait les comptes là sur France Inter. Alors si on compte juste le trimestre qui vient de s'écouler, on est, je vais vous dire, ric-rac. C'est-à-dire que sur le total de France Inter, il y a eu 18 heures de temps de parole pour la majorité et 17h30 pour l'opposition. Donc vous voyez, on arrive à peine à donner plus de temps de parole à la majorité qu'à l'opposition. Et on va aller jusqu'au bout de la transparence. Si on prend le semestre, c'est-à-dire depuis début juillet, eh bien c'est l'opposition qui a eu plus de temps de parole que la majorité. On a une particularité sur cette législature, c'est qu'il y a plusieurs oppositions.
C'est ça qui est compliqué d'ailleurs.
Voilà. C'est-à-dire que France Insoumise, Parti Socialiste, LR, FN, vous avez plusieurs oppositions. Donc si on doit donner la parole à chacune des oppositions, et il le faut, du coup, chaque partisan de chacune de ces oppositions a l'impression qu'il a relativement peu de temps de parole.
Et donc c'est ce qui explique certainement qu'à partir du 1er janvier, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, change les règles.
Oui, cela dit, elles vont juste, pour être tout à fait honnête, nous compliquer un peu la tâche, elles vont être encore plus contraignantes en réalité, mais sur le point soulevé par les auditeurs, ça ne changera rien, c'est-à-dire que le total du pouvoir exécutif, donc la majorité, et du parti principal à l'Assemblée, c'est-à-dire la même majorité, la République, République En Marche, ce temps-là devra de toute façon dépasser les 50% du temps de parole. Donc on retrouve la même problématique. Et encore une fois, elle est assez logique en démocratie que la majorité ait plus de temps que l'opposition. Ça paraît tout de même assez légitime.
Enfin, des auditeurs s'étonnent, et on change à nouveau de sujet, que vous évoquiez régulièrement l'affaire Weinstein et de nombreux cas de harcèlement et violences sexuelles. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un journaliste de France Inter, et là je cite Henri, un auditeur, un ponte, Patrice Bertin, évacué entre guillemets par suite de comportements déplacés voire plus, vous n'en dites rien alors que toute la presse en parle.
Ce n'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'est pas vrai de dire que toute la presse en parle. Il y a eu des articles dans Mediapart, Le Monde et Le Parisien, je crois. C'est une partie de la presse, mais ce n'est pas vrai de dire que toute la presse en parle. Mais l'essentiel n'est pas là dans l'observation de nos auditeurs. Nous en avons parlé, de fait, on en a parlé dans le 7-9, dans le journal de 7 heures, c'est l'ouverture de tranche, il n'y a pas plus prime time, comme on dit en bon français. On en a parlé dans le téléphone sonne, donc je ne crois pas qu'on ait fait l'impasse sur ce sujet. Et je ne suis pas sûr qu'à l'inverse, d'autres médias concernés par des affaires similaires en leur sein aient fait le même effort de transparence que nous. Donc sur ce terrain-là, je crois que la critique n'est pas très bienvenue. Maintenant, les auditeurs ne peuvent pas tout entendre tout le temps, je le conçois aussi aisément. Et juste un dernier point là-dessus, je pense qu'il faut vraiment souligner pour le coup que Radio France Sonore a justement essayé de libérer la parole sur ces sujets-là qui sont essentiels et d'avoir constitué une cellule d'écoute au sein de l'entreprise qui permette à la parole de se libérer, ça me paraît tout à fait déterminant.
Eh bien merci Jean-Marc pour toutes ces précisions. Jean-Marc Four, donc directeur de la rédaction. Et bonjour Jean-Michel Candin.
Bonjour.
Vous êtes le grand patron de la technique de Radio France et il y a un an, vous aviez promis de répondre au mieux à tous les auditeurs qui pourraient avoir des difficultés à écouter France Inter après l'arrêt des grandes ondes. Alors qu'avez-vous fait de tous les messages adressés au médiateur et que nous vous avons transmis ?
Alors, on a essayé effectivement de répondre à tous les auditeurs qui se manifestaient. Mais d'abord, rappelons pourquoi nous avons arrêté l'onde longue quand même. Nous l'avons arrêté parce que son audience était de plus en plus marginale, que par ailleurs,
oui, ça faut le préciser, oui.
Le territoire est très bien couvert en modulation de fréquence. Enfin, de nouveaux modes d'écoute sont en montée en puissance en ce moment, notamment via Internet, via les mobiles, via les ordinateurs. Et bien évidemment, il est important pour nous de pouvoir alimenter les auditeurs par ces nouveaux canaux de distribution. Enfin, le coût était très élevé. Il s'élevait à plusieurs millions d'euros par an. Alors qu'avons-nous fait ? D'abord un petit bilan. Nous avons centralisé l'intégralité des observations et des messages que nous avons pu recevoir, soit par téléphone, soit par courrier, soit par message internet, qu'il vous soit adressé à vous, médiateur, qu'il soit adressé au service des relations auditeurs de France Inter ou même à la direction ou à la présidence de Radio France. Le bilan. Nous avons eu exactement, pour être très précis, 235 auditeurs qui se sont manifestés dans les premiers jours. Puis 5 dans le reste de l'année, soit un total de 240 auditeurs. Sur ces 240, tous, et je dis bien tous, ont été contactés. Seulement 58%, 140, ont souhaité continuer une discussion avec nous pour essayer de résoudre leur éventuel problème. Sur ces 140, après démarche des services de la maison, des services techniques de la maison, 104 ont confirmé qu'ils avaient une solution pour pouvoir écouter en FM après les conseils qui leur avaient été prodigués. 36 ont continué à estimer ne pas pouvoir recevoir et d'après nos études, dans la réalité des faits, 7 auditeurs aujourd'hui ne peuvent plus capter en FM, même s'ils ont d'autres possibilités pour pouvoir continuer à recevoir les programmes.
Les cas les plus souvent cités, c'était des problèmes de zone géographique en fait.
Oui, nous avons indiqué tous les points sur la carte et nous avons procédé à des mesures sur le terrain, avec des déplacements systématiques pour voir chacun de ces points et les isoler. Alors on a effectivement découvert des zones où la réception est un peu moins bonne, est inconfortable on va dire, notamment le littoral vendéen et certaines agglomérations. Un exemple emblématique, c'est l'agglomération de Laval d'ailleurs, sur laquelle le maire nous a également informé de problèmes rencontrés par ses concitoyens. Et ces problèmes résultent en général d'une dégradation de la qualité de la réception liée à l'augmentation du nombre de stations qui sont installées, de stations de radio qui sont installées dans ces zones. Donc, nous avons engagé des actions. Bon, la question de la réception et de la protection de la réception des programmes de Radio France relève du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc nous sommes en train de travailler avec les services techniques du Conseil pour trouver des solutions d'amélioration de la couverture de France Inter pour chacun des points où nous avons confirmé sur le terrain qu'il pouvait y avoir dégradation de la réception.
Donc vous continuez en effet à tenter d'améliorer au mieux la réception pour les auditeurs concernés.
Tout à fait. Et je voudrais rappeler néanmoins que, indépendamment de la FM qui court très bien le territoire, d'autres solutions ont été déployées. Les solutions de réception par satellite. Il y a des systèmes de réception satellite gratuits. Hein. Une partie de l'offre Canal Satellite, mais également l'offre Fransat, qui permettent de recevoir en très haute qualité tous les programmes de Radio France, dont évidemment France Inter. Et puis, sur Internet, que ce soit sur les ordinateurs, sur les téléphones mobiles, et puis sur les objets connectés dont on parle tant en cette période de Noël, il est possible d'ores et déjà de recevoir les programmes de France Inter.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Cornin, directeur général adjoint chargé des techniques et technologies nouvelles de Radio France. Et merci aussi à toutes vos équipes. Prochain rendez-vous du médiateur dans un mois. D'ici là, vous pouvez continuer à réagir sur notre site médiateur.radiofrance.fr ainsi que sur Facebook et Twitter.
Et on aura l'occasion d'entendre prochainement Catherine Neil dans ce rendez-vous du médiateur. Elle vient d'être nommée directrice de l'information de France Inter.